France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
En plein cœur du printemps, vous faites peut-être partie des 30% de Françaises et de Français à être allergiques au pollen, à utiliser une quantité faramineuse de mouchoirs. Comment mieux prendre en charge les allergies ? Dans les années 50-60, avec le bouleversement de nos modes de vie, on a assisté au début du boom des maladies allergiques, ce dérèglement de la machinerie immunitaire. Pour le pollen, le nombre de cas a triplé en France depuis 30 ans. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2050, la moitié de la population mondiale sera concernée par une allergie, quelle qu'elle soit, acariens, médicaments, aliments. On parle même de pandémie silencieuse. Comment s'explique cette flambée du nombre de cas et comment faire face aux raz-de-marée à venir ? Allergie, tousser, couler. Isabella Annecy Maizano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'épidémiologie environnementale, directrice de recherche INSERM à l'Institut Hospitalo-Universitaire Immune for Cure à Montpellier. Audrey Nosbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermato-allergologue et professeure d'immunologie à Lyon. Et Yann Cornillier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine de l'INSERM avec comme grand angle pour le dernier numéro, bientôt tous allergiques avec une toute nouvelle et toute belle formule. Et vous co-animerez à mes côtés cette émission, une émission en partenariat avec l'INSERM. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation direct sur France Culture. Merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France et rendez-vous également sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors, quels sont les mécanismes physiologiques de l'allergie ? Qu'est-ce qui augmente le risque de réaction allergique et quelles sont les pistes thérapeutiques à l'étude ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. En 1947, il s'agit d'un champ d'études récent.
Ces maladies allergiques n'ont pas à leur origine une cause toxique ou infectieuse. Elles sont dues à un état particulier de l'individu qui réagit à telle ou telle substance, d'ordinaire, bien tolérée.
Mais pourquoi sont-ils sensibilisés ou allergisés, si l'on peut dire ?
Pourquoi ils sont sensibilisés à cette substance ? Il s'agit d'une question de terrain individuel, mais ce terrain, nous ne le connaissons pas encore. Parmi ces maladies allergiques, je vous citerai tout d'abord le rhume des foins, qui en est le type le mieux défini et le plus constant. Certains asthmes, déclenchés par telle ou telle inhalation ou telle absorption. Certains coryza spasmodiques. Certaines toux quinteuses, certaines conjonctivites, certaines migraines, certains troubles digestifs, cardiovasculaires ou rénaux. À mesure que l'on connaît mieux les phénomènes d'allergie, que nous pouvons appeler, si vous voulez, d'hypersensibilité, on s'aperçoit que dans la plupart des domaines de la pathologie, on trouve des manifestations morbides dues à une sensibilisation, une idiosyncrasie, comme on disait autrefois, la substance incriminée ou allergène pénétrant dans l'organisme par les voies les plus diverses, respiratoires, digestives, cutanées, sous-cutanées, intraveineuses. Le mécanisme intime du phénomène s'explique probablement par un conflit entre l'allergène et un anticorps que le même allergène a développé précédemment dans l'organisme.
Un extrait de l'émission Un médecin vous parle, diffusé sur la RDF en 1947, et la voix de Louis Pasteur, Valérie Radeau, le petit-fils de Louis Pasteur. Audrey Nosbaum, 1947, on est peu de temps quand même avant ce boom des maladies allergiques.
Absolument, mais il y a déjà plein de bonnes choses et des choses assez vraies qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais qui se sont beaucoup précisées avec le temps.
Oui, qui se sont précisées, c'est-à-dire ?
Les mécanismes, on a quand même fait beaucoup d'avancées sur la compréhension de la survenue des mécanismes des allergies. On sait maintenant qu'il y en a effectivement de tout un tas de formes différentes qui vont impliquer des acteurs différents. Et ça, je pense qu'en 1947, on ne les connaissait pas tous.
Isabella Annecy Maizano, on est en effet en 1947. Aujourd'hui, à quel point comprend-on les maladies allergiques ?
On comprend beaucoup mieux parce qu'on a plus de moyens pour les comprendre aussi. Tantôt en termes de biologie, de mécanisme, mais aussi, comme l'a dit le petit-fils de Pasteur, il y a un terrain génétique qui est là, une sociabilité des sujets, et auquel se rajoute la rencontre avec l'environnement. Et depuis les années 60, nous le savons maintenant très bien, l'environnement est devenu beaucoup plus agressif. Pour vous donner un chiffre qui fait peur à tous, depuis 1960, l'homme a créé 360 000 nouveaux produits, ex novo, qui sont des produits souvent toxiques, en tout cas ce sont des produits dont on n'a pas testé les effets sur la santé, et ces produits contribuent à fragiliser l'individu. Et ensuite, voilà, dès qu'il y a l'allergène, dont on a compris que c'est la substance qui est à l'origine de l'allergie, dans ce terrain fragilisé, ben, l'allergène pénètre plus facilement.
On reviendra évidemment sur ces facteurs toxiques et sur ces facteurs environnementaux qui sont latents dans ces cas d'allergie. Mais votre réaction, vous aussi, Yann Cornillier, à l'écoute de cet archive.
Oui, alors effectivement, ce qui a beaucoup évolué, c'est effectivement que c'est plus un facteur exclusivement individuel. En tout cas, ça n'a jamais été le cas, d'ailleurs. Mais c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le facteur environnemental qui était vraiment déterminant. Et puis, en revanche, ce qu'on écoute dans l'archive, c'est qu'il y a des multiples symptômes, des multiples manifestations, et il y a diverses allergies et divers allergènes, et ils en ont déjà, on a déjà conscience de ça.
Sur ces multiples symptômes, justement, on peut peut-être commencer à rentrer dans le détail, Audrey Nussbaum, sur qu'est-ce qu'on observe, quel type, il y a un grand nombre d'allergies, il y a aussi donc un grand nombre de symptômes.
Alors, ce qu'on observe d'abord, c'est qu'il y a le terme allergie est très galvaudé dans la population générale. Beaucoup de personnes vont souffrir de symptômes divers et variés et dire « je fais une allergie ». Alors qu'en réalité, ils font des réactions, mais le terme allergie se base sur des critères assez clairs qu'on peut retrouver en interrogeant les personnes sur des tests, qu'ils soient sur la peau, dans le sang, et puis sur des tests parfois aussi de réintroduction. Donc c'est vrai que c'est toute une démarche allergologique qui permet d'arriver à un diagnostic d'allergie, même s'il y en a des très simples à diagnostiquer. On parle d'allergies et de symptômes. Il va y avoir des allergies immédiates, des allergies retardées, et tout dépend des acteurs du système immunitaire qui vont être impliqués. Les allergies immédiates, ce sont les plus fréquentes, vont intégrer des anticorps de l'allergie qu'on appelle les anticorps de type IgG.
De type E. Anticorps de type immunoglobuline, on n'y arrive pas toutes les trois, de type E en effet.
Voilà. Et les allergies retardées vont impliquer des lymphocytes T. Et donc ce sont deux grandes parties du système immunitaire qu'on appelle l'immunité humorale et l'immunité cellulaire qui vont être impliquées dans les allergies. Et donc les symptômes vont en dépendre. Ce qui va impliquer les IgE, ce sont des symptômes immédiats. Très rapide, ça peut être un coup de tonnerre dans le ciel serein, c'est quelques minutes après l'exposition avec l'allergène où on va commencer à avoir des symptômes, que ce soit des symptômes oculaires, nasaux, asthmatiques, cutanés, et ça va se manifester par effectivement de l'asthme, de la rhinite, qu'on appelait avant coryza dans l'archive, ou de l'urticaire. Et l'allergie retardée, en revanche, c'est des symptômes qui vont être par définition retardés, survenir plusieurs heures, quelques jours après le début de contact avec l'allergène, et qui vont se manifester par exemple, de l'eczéma.
Ce rhume des foins dont on entendait parler dans cette archive, l'allergie respiratoire avec ses éternuements à répétition, qui représente 55% des cas d'allergie déclarés, qui est donc très fréquent dans la population. Le souci, Isabella Anzi Maizano, c'est que la rhinite allergique multiplie par 4 le risque d'apparition d'un asthme, par exemple.
Oui, absolument. Ça, on l'a observé avec le temps. On a vu que beaucoup de rhinitiques allaient devenir des asthmatiques. Donc, c'est pour ça qu'on fait de la prévention, on essaie de faire de la prévention quand on a des sujets allergiques, rhinitiques, et je pense que c'est la dernière partie de notre émission aujourd'hui qu'on va parler de traitement, comment on bloque un processus afin qu'il n'évolue pas vers l'asthme, parce que l'asthme, c'est une des pathologies la plus grave et en tout cas très coûteuse pour la société, parce que être hospitalisé pour des crises d'asthme coûte, et puis il y a des coûts sociaux et de bien-être qui sont importants. Faire une crise d'asthme, c'est traumatisant, surtout pour les enfants en bas âge.
Et justement, chez l'enfant, ce qu'on observe, c'est ce qu'on a longtemps décrit comme étant la marche atopique, qui est la succession progressive dans le temps de différentes manifestations allergiques. Et ça commence par la dermatite atopique, une forme d'eczéma chez les petits-enfants, dès les premiers mois de vie, qui ensuite fait suite avec des allergies alimentaires, puis de l'asthme et après la rhinoconjonctivite allergique aux différents âges de la vie. Et donc cette progression là n'est pas constante, mais ça montre bien qu'on commence à rentrer dans le terrain par la peau et après on va se sensibiliser via la peau aux autres allergènes.
Yann Cornillet, pour poursuivre ce tour d'horizon, ce panorama des différentes allergies et de leurs différentes expressions.
Oui, alors c'est vrai que les allergies vont évoluer au fur et à mesure du temps et de l'âge. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est allergique quand on est tout petit que ça peut pas évoluer de manière progressive. Et à l'inverse, à tout âge, on peut avoir l'apparition de nouvelles allergies. Donc il faut prendre en compte, ça évolue. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport à la gravité, alors on pense souvent que les allergies, c'est un peu anodin, arôme des foins, on tousse, etc. Mais en fait, en termes de qualité de vie, c'est quand même très gênant. Ça peut empêcher les gens de dormir, ça peut empêcher les gens de se concentrer, de travailler, etc. Donc, en dehors du choc anaphylactique que tout le monde connaît, qui est une réaction très grave et brutale et qui peut être éventuellement entraîner la mort, il y a aussi, de toute façon, une qualité de vie qui est entachée par les allergies. Donc, ce n'est pas qu'une maladie anodine.
Ce choc anaphylactique, en effet, hein, très rare, très violente, potentiellement fatale, mais Audrey Nussbaum, qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là ?
En augmentation.
Alors, pour le choc anaphylactique, on est vraiment sur la forme ultime des réactions allergiques les plus sévères. Hein. Ça commence le plus souvent par une exposition à un allergène de l'environnement. Il faut que l'individu soit préalablement sensibilisé. Donc c'est vrai qu'on va peut-être parler un petit peu des mécanismes de déclenchement de ce type d'allergie immédiate. Cela se passe en deux temps. Il y a une phase qui est cliniquement muette. Personne ne sent rien. Ça se passe à l'intérieur de l'organisme avec un individu exposé à un allergène. Cet allergène va pénétrer, va être pris en charge par des cellules de l'immunité et cet allergène va être présenté à des cellules importantes qu'on appelle les lymphocytes B et qui vont être capables de produire les anticorps de l'allergie, les IgE. Et une fois que ces IgE se produisent, elles vont diffuser dans l'organisme et se fixer à la surface de cellules très importantes des allergies immédiates qu'on appelle les mastocytes. Et une fois les mastocytes couronnés d'IgE, il ne se passe plus rien. Jusqu'à la deuxième phase très importante qu'on appelle la phase de révélation, la phase de la réaction allergique ou après une nouvelle exposition allergénique. Cette fois-ci, l'individu sensibilisé, qui a déjà les anticorps, va avoir ces cellules qui vont être activées par la fixation de l'allergène sur les IgE et ça va pouvoir déclencher une activation de ces cellules, activation mastocytaire qui peut être extrêmement importante avec le relargage de molécules comme l'histamine qui est l'un des plus puissants vasodilatateurs de l'organisme, c'est-à-dire que il y a une dilatation de tous les vaisseaux et donc une perte de tension, des bronchospasmes également, de l'urticaire, des vomissements, des douleurs abdominales.
L'arrêt respiratoire, voilà. En cas du choc anaphylactique.
Et donc là, on est vraiment dans l'état le plus ultime et le plus dangereux. Heureusement, il existe des bons traitements, notamment de l'adrénaline, qui sauve la vie, bien heureusement.
Voilà, bon, ça, je le répète, hein, ça reste des cas très rares. On évoque ensemble ces différents allergènes. Isabella, Annecy, Maizano, ils peuvent être de toutes sortes. Ce sont des substances qui sont à la base, au départ, inoffensives et qui ont différentes voies d'entrée.
Oui, absolument, parce que justement, on l'a dit, hein, Yann l'a dit, l'allergie est multi-organe. Donc, selon l'organe atteint, il y a une voie de pénétration qui est différente. Alors, pour faire une liste des allergènes qu'on rencontre dans notre vie, ben, il y a les acariens, hein, à la maison, il y a les moisissures, il y a les pollens, puis on passe à, et ça, on les inhale. A priori, ensuite il y a le régime alimentaire, certains produits notamment parmi les dangereux la cacahuète par exemple qui peut donner vraiment des réactions très sévères. Ensuite, il y a les médicaments. hein, et Audrey est une experte de ça. On prend un médicament et on nous fait des réactions. Souvent, c'est une crème qu'on utilise. Et pour aller plus loin, on en parle moins, mais il y a aussi les hyménoptères. C'est un mot savant pour dire les abeilles,
les venins, les frelons.
Oui, voilà. Il y a des gens qui, une fois piqués par ces insectes, mais malheureusement, ils ont de gros problèmes et ils vont vers un choc anaphylactique grave.
Yann Cornillier, un fait préoccupant, c'est que de plus en plus de patients sont allergiques à plusieurs allergènes.
Oui, ça, c'est, faut bien prendre en compte. C'est pas parce que on a le rhume des foins qu'on peut pas aussi être allergique à un aliment ou etc. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus aussi, c'est par rapport aux chiffres qu'on donnait au tout début de gens touchés par les allergies, c'est qu'il y a de plus en plus d'allergies combinées, on va dire. Donc on est allergique à plusieurs substances en même temps.
Vous souhaitiez réagir, Audrey Nosbaum?
Et oui, parce que ce qui peut être intéressant de comprendre, c'est qu'un allergène qui est reconnu par le système immunitaire est par définition une protéine. Et la nature, en fait, pour créer un aliment ou un composé, va utiliser des lipides, des protéines et des glucides. Mais ce ne sont que les protéines qui vont donner, en fait, des allergènes, être reconnues et donner les allergies. Et pourquoi il y a des chimiques comme les médicaments qui peuvent aussi donner des allergies? Parce que la particularité de ces chimiques, c'est de rentrer dans l'organisme et de modifier les protéines de notre propre soi et d'être reconnu à ce moment-là comme des allergènes internes.
Alors pourquoi le nombre de personnes allergiques augmente-t-il? Quelles sont les causes? Restez avec nous.
Enfin, je me sens mieux, je vais revoir les cieux, loin de Paris et Cannes, au milieu des roseaux, nageant dans nos deux eaux, oh, quel divin voyage! Me voilà tout trempé, à peine ranimé, et qui plus est fort enrhumé.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Sortons les mouchoirs. En direct sur France Culture, nous parlons des allergies avec Isabella Anzi-Maizano et Audrey Nosbaum. Une émission en partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier. On vient de décrire les mécanismes physiologiques de cette réponse disproportionnée du système immunitaire qui réagit contre des substances inoffensives, des allergènes. On a évoqué il y a quelques instants la prédisposition génétique. Audrey Nosbaum, l'hérédité est un facteur de risque indéniable pour le développement de ces maladies. Ça n'explique pas tout, mais comment la génétique intervient-elle plus précisément?
Alors, on parle d'un terrain prédisposant. Il n'y a pas un seul gène impliqué dans le terrain atopique qui favorise les allergies. On le sait, par exemple, que lorsque l'un des parents d'un enfant est atteint d'atopie ou d'allergie, il y a presque 50% de risque qu'il le transmette à son enfant. Les deux parents, c'est pas loin de 80% de risque pour que l'enfant le soit également. Donc on voit tout de même que la génétique joue. Mais ce n'est pas un seul gène en particulier.
On a identifié aussi des variations génétiques qui augmentent le risque de développer des allergies, Isabella Anzi-Maizano.
Oui. C'est polygénique, en fait. Et moi, j'ai travaillé un petit peu, c'est fini, parce que là, je suis vraiment très dédié à l'environnement. Et souvent, on était dans des groupes internationaux et pour l'Europe, on trouvait des gènes qu'on ne retrouvait pas pour aux États-Unis pour les gens d'origine hispanique qui étaient différents de ceux qu'on avait en Afrique. Donc, tout ça, c'est pour dire que cette prédisposition, bien sûr, change et que c'est... Maintenant, on parle de score génétique pour dire quelle est la probabilité en ayant plusieurs gènes de développer la maladie allergique. Mais ça n'explique pas tout. Seulement 10% des allergiques sont expliqués par un mélange de gènes. Il faut toujours de l'environnement. Et bien sûr, l'allergène dont on a parlé, il faut cette substance qui déclenche.
Yann Cornillier, question un peu... je joue à la naïve, mais si on voit de plus en plus de cas d'allergie, est-ce qu'on peut pas tout simplement se dire que c'est parce qu'on a fait des progrès dans le diagnostic et donc qu'on repère mieux les allergiques, mieux qu'auparavant?
En tout cas, c'est pas à cause de la génétique qu'il y a plus de cas d'allergie, ça c'est sûr. Et après, dans le diagnostic, effectivement, on en sait quand même plus sur les allergies, donc c'est quand même plus facile, mais ça veut pas dire que ça reste pas compliqué aussi de diagnostiquer une allergie. Il y a beaucoup d'errance diagnostique d'ailleurs. Et comme disait Audrey, il y a beaucoup de gens qui pensent être allergiques alors en fait qu'ils le sont pas, et d'autres qui pensent qu'ils ont des symptômes qui n'ont rien à voir avec l'allergie, et en fait, c'est bien une allergie. Donc ça reste quand même très compliqué.
Isabella,
oui, je veux rebondir sur ce que dit Yann. En fait, il y a des études qui ont utilisé exactement les mêmes méthodes à plusieurs années de différence. Et c'est grâce à ces études, dans des populations comparables, avec les mêmes méthodes, qu'on a pu voir qu'il y avait un doublement, par exemple, de la fréquence du nombre de malades d'asthme, de rhinite. Et il y a aussi des modèles un peu sophistiqués pour éliminer le diagnostic mieux fait des équations. Donc, c'est vraiment une augmentation qu'on observe. D'ailleurs, on la voit aussi en clinique depuis quelques années. Elle est patente.
L'élévation du nombre d'allergiques s'explique exclusivement par des causes environnementales. On a plusieurs théories pour expliquer cette hausse de la prévalence des allergies. Première théorie, c'est la thèse de l'aseptisation de notre environnement, qui était formulée dès la fin des années 80. Isabella Ensi-Maizeno, quel est le postulat de cette hypothèse hygiéniste?
Mais l'hypothèse hygiéniste, c'est que notre système immunitaire habitué dans le temps à lutter contre les infections se retrouve tout simplement dans un environnement où il n'y a plus d'infection parce qu'on a été vacciné, parce qu'on utilise des antibiotiques, etc., etc. Donc, de ce fait, le système immunitaire, il est très performant, très intelligent, et il se recycle, on pourrait dire, et il va lutter contre des ennemis qu'on peut considérer comme imaginaires, hein, parce que finalement être allergique aux fraises ou à un médicament, et pourquoi pas, le médicament c'est plus compliqué, mais disons les acariens, etc. Et ça, c'est une des hypothèses qui a été soulevée tout de suite par un Anglais.
Et c'est vrai que plus récemment, on a l'impression que ce qui semble être assez pertinent pour expliquer ce boom des allergies, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la barrière des barrières épithéliales. Ce qui veut dire barrière épithéliale, c'est quand on considère tout ce qui est dans l'organisme en contact avec l'extérieur, c'est-à-dire la peau, le tube digestif, les poumons, le nez, les yeux. Et en fait, ce sont des barrières qui sont constituées de cellules spécialisées, et ces barrières aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous vivons, sont altérées. Et altérées comment? Par l'exposition, on l'a dit tout à l'heure, à tout un tas de chimiques, et il y en a énormément qui ont été développés avec le temps, et notamment des détergents dont le but d'un détergent est effectivement de nettoyer, ou en tout cas de décaper une surface, mais également décaper la surface de nos propres organismes en découpant en fait les jonctions qu'il y a entre les cellules, et donc de faire que nos barrières naturelles, nos épithélias, deviennent trop poreuses. C'est-à-dire que normalement, pour vous donner un exemple, une peau normale, c'est comme un film plastique alimentaire, vous mettez une goutte dessus, la goutte roule. Une peau actuelle, une peau avec une barrière altérée, c'est comme un papier buvard ou une éponge, vous mettez une goutte dessus, tout va être absorbé. Et donc, il y a des barrières trop poreuses qui vont favoriser la pénétration à l'intérieur de notre organisme de différents agresseurs, que ce soit des allergènes, des bactéries, des polluants ou des bactéries autres. Et c'est là où le microbiote rentre en compte.
Le microbiote, en effet, par rapport à ces différentes théories pour expliquer cette hausse de prévalence, on voit aussi la thèse de la perte de biodiversité en matière de plantes, d'animaux, de micro-organismes, une perte qui est liée notamment à l'urbanisation. Et ça, ce serait aussi lié à l'appauvrissement du microbiote extérieur, Audrey Nussbaum.
Normalement, nos barrières sont recouvertes de de micro-organismes qui sont extrêmement variés. Et c'est vrai que quand on commence à avoir une barrière altérée, abîmée par les détergents, cette variété, cette diversité des micro-organismes à la surface de notre peau va être déséquilibrée. Et donc on passe d'un microbiote normal à ce qu'on appelle une dysbiose, un déséquilibre dans les micros, dans les pathogènes qui sont à la surface de nos barrières. Et ça peut créer en fait de l'inflammation, ça peut créer le terreau de survenue en fait des allergies.
Alors parmi les coupables, on voit aussi apparaître le changement climatique. Yann Cornillier, par quel mécanisme le changement climatique intervient-il sur l'augmentation du risque de réaction allergique ?
Mais là, on est sur des facteurs effectivement environnementaux et donc effectivement, bah, tout simplement, le fait que il y a un réchauffement climatique va augmenter la période des pollens, va aussi faire remonter vers le nord certains pollens qui n'étaient cantonnés qu'au sud précédemment. Les températures, les orages aussi vont déclencher, faire en sorte que les pollens deviennent des micro-particules encore plus allergènes. Donc il y a tout un tas de facteurs comme ça. Et les polluants atmosphériques aussi font que effectivement vont favoriser les allergies comme l'ozone. Et puis tout simplement aussi le tabagisme passif. Hein, il va influencer sur les facteurs allergiques.
C'est que par rapport en tout cas à l'augmentation des températures, on voit des arbres qui libèrent leur pollen dès l'hiver, des de moisissure à l'automne. On a donc un très court répit de la mi-octobre à la mi-décembre, Isabella Anne-Cy Maizano.
Absolument, oui, oui. On a des cartes de pollen catastrophiques. Déjà en décembre, c'était tout rouge pour la France. Et voilà, je pense qu'il faut considérer qu'il y a plusieurs facteurs qui se mettent ensemble et qui contribuent à l'augmentation de ces expositions aux allergènes. Et très important ce que Yann disait, en fait il y a un mélange dangereux entre pollution et pollen par exemple, ou pollution et moisissure, parce que d'un côté la pollution abîme les muqueuses dont on a parlé, et de l'autre côté on sait, et ça c'est les données expérimentales qui nous le montrent, que les pollens n'aiment pas du tout les polluants, et que quand ils rencontrent les polluants, s'ouvrent pour laisser sortir des particules qui sont microscopiques, très très petites. Le pollen d'habitude s'arrête en haut du nez, hein, et puis là on a la pollinose, la rhinite au pollen, et dans le cas d'une exposition à la pollution, eh bien, ces microparticules pénètrent et vont dans le poumon, et c'est comme ça que maintenant on voit de plus en plus d'enfants et d'adultes qui ont un asthme au pollen, qui avant était assez rare comme phénomène.
Dernier coupable, la hausse des allergies pourrait aussi découler de notre alimentation, notamment avec l'alimentation ultra transformée. Alors, comme vous dites, ce n'est pas un ou deux facteurs environnementaux en jeu, mais de nombreux facteurs qui interagissent entre eux. Comment faire face aux raz-de-marée à venir ? Comment mieux prévenir les allergies ? Comment mieux les prendre en charge ? Restez à l'écoute.
Shine down.
Allergie de Pond en direct sur France Culture, car nous parlons d'allergies de toutes sortes. On en parle avec Isabella Annecy Maizano, professeure d'épidémiologie environnementale, directrice de recherche INSERM à l'Institut Hospitalo-Universitaire Immune for Cure à Montpellier, Audrey Nussbaum, dermato-allergologue et professeure d'immunologie à Lyon. Cette émission est en partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillier, rédacteur en chef du MAC de l'INSERM. D'ici 2050, environ la moitié de la population s'offrira d'allergies au niveau mondial. Cette augmentation s'explique par la multiplication des facteurs propices comme les pollutions, le changement climatique, la aseptisation des modes de vie, mais aussi le stress. Pour comprendre comment la prise en charge s'adapte à ces nouveaux facteurs, nous sommes allés au cabinet d'un allergologue qui mène des études sur ce sujet. C'est le reportage du jour et c'est avec vous Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha. Au centre d'allergologie du docteur Niam Famti, médecin pédiatre et allergologue, la prise en charge des patients souffrant d'allergies s'opère selon une investigation personnalisée et approfondie, intégrant des techniques innovantes, applications mobiles, tests de porosité et mesures physiologiques. Pour l'asthme par exemple, la sensibilité est évaluée grâce à des dispositifs tels que le plétismographe, un examen réalisé dans une cabine fermée où le patient assis sur un siège souffle dans un capteur mesurant les volumes pulmonaires. Un sondage physiologique mais aussi psychologique, car le stress est une cause aggravant la survenue d'allergies à tous les âges.
Donc ici, vous avez nos collaboratrices, il y a Roxane et Mélina qui sont à l'accueil et qui viennent récupérer tous les éléments dont on a besoin.
Sur votre bureau, il y a une sorte de casque, une lunette binoculaire.
Sur mon bureau, il y a plusieurs instruments qui vont venir explorer toutes ces surfaces. Donc effectivement, j'ai la loupe binoculaire qui va nous permettre de regarder dans les muqueuses, à l'intérieur, dans le nez, la bouche. Et donc ça nous donne vraiment beaucoup d'éléments de...
Déjà à l'œil nu.
Enfin... À l'œil nu, d'inflammation, on va écouter, on va regarder à la loupe... la peau, on va mesurer les voies respiratoires, la sensibilité, faire les tests et bientôt, j'espère, mesurer la porosité cutanée aussi. Donc tous ces éléments-là vont venir enrichir le dossier et la compréhension. On a aussi des instruments, on va dire, électroniques parce qu'on demande au patient de télécharger une application qui lui permettra de rentrer ses symptômes et avec le calendrier, les pics polliniques, les pics de pollution, éventuellement la géolocalisation, on va pouvoir avoir des données assez précises de ces cofacteurs externes qui viendront émailler la description des symptômes que le patient va rentrer dans son smartphone.
En pratique, comment se passe cette investigation auprès des patients qui viennent vous voir? Quels sont les tests qui sont soumis à ces patients?
On a un protocole d'investigation de ces différents milieux, de ces symptômes. On a à peu près une centaine de questions qui permettent de juger tout cela, d'apprécier la gravité des signes aussi. Et on va s'intéresser à ces différentes surfaces. J'explique au patient qu'il est fait de différentes couches, de différentes surfaces, hein, comme un millefeuille. Et on a une surface respiratoire. On va s'intéresser à la surface cutanée, c'est-à-dire la peau, parce que très souvent, il y a associé de la peau sèche, une peau poreuse, et voire de l'eczéma. On va s'intéresser aussi à la surface digestive, hein, parce que très souvent, ces personnes-là ont éventuellement une intolérance alimentaire ou des allergies alimentaires, c'est possible. Et puis, enfin, la surface qui nous paraît importante dans cette prise en charge, c'est la surface cérébrale, qui en fait est aussi une couche sur laquelle le système immunitaire peut venir agir et de manière inverse va venir donner des ordres au système immunitaire qui traverse toutes ces différentes surfaces.
Alors une fois qu'on a identifié les causes et les facteurs qui induisent des formes d'allergie, comment cette connaissance-là peut orienter des stratégies thérapeutiques et des traitements particuliers adaptés aux patients?
Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on fait des tests. Donc là, dans le bureau, on va faire des tests cutanés, c'est-à-dire que...
Donc déjà, ils arrivent ici.
Oui. Le patient arrive, on pose donc ces centaines de questions pour avoir l'ensemble du tableau. Et en fonction de ces symptômes, on va faire des tests d'allergie. Ici, là, on va poser sur la peau des petites gouttes dans lesquelles on a des allergènes et qu'on va mettre en confrontation avec le système immunitaire pour voir là où ça réagit. Donc ça va nous dire, vous êtes sensibilisé sensibilisés ou allergiques aux acariens, aux pollens, aux chats, aux chiens, etc. Et en même temps, on va regarder les différentes surfaces dont je parlais, de la surface de la peau, les surfaces respiratoires. Donc là, on va mesurer la sensibilité respiratoire dans cette...
Alors là, c'est une cabine.
Voilà, c'est une cabine, en fait.
De dimension comme une cabine de photobaton.
Exactement, photobaton. Ce qu'on appelle un plétismographe, c'est-à-dire c'est une machine qui permet de mesurer la résistance et, de manière très indirecte, l'inflammation au niveau des bronches. Donc, ça nous permet de faire le diagnostic de l'asthme, par exemple.
Donc, la personne s'assoit sur le siège.
Et elle va souffler dans le tuyau qu'elle a, qui va mesurer le débit, le volume. Et puis, il y a tout un ordinateur qui va calculer les variations de pression. Et grâce à ces calculs savants, on va pouvoir avoir une idée de l'inflammation au niveau des bronches. Donc ça, c'est vraiment extrêmement utile pour faire le diagnostic. Et donc aussi, on a à cœur de pouvoir s'équiper et mesurer la porosité de la peau, puisqu'il s'agit de ça. Ce qu'on appelle la topie, cette caractéristique qui est génétique au départ et qui va donner cette sorte de porosité, entre guillemets, aux différentes surfaces, à la surface de la peau, des voies respiratoires, du tube digestif, il y a un point commun. C'est-à-dire que la surface n'est pas assez fermée, elle n'est pas assez imperméable même. Et donc, elle va laisser passer un certain nombre d'éléments et elle va probablement surexposer le système immunitaire qui va être du coup un peu chatouilleux aussi.
Et une des causes que vous étudiez plus en particulier, c'est le stress. Vous menez une étude actuellement. Comment on peut justement mesurer chez un individu, enfant, adolescent ou adulte, ce stress et en relier les conséquences au niveau des allergies?
Alors, on a fait une étude il y a quelques années sur l'influence du stress sur la survenue de l'allergie et notamment dans l'asthme. Ben, on s'est rendu compte que ce risque-là était aggravé par le stress que l'on a mesuré sous forme de questionnaire que l'on a donné aux parents et aux enfants.
Est-ce qu'on arrive à pondérer l'importance de ces différents risques? Par exemple, le fait d'avoir une prédisposition si on n'est pas stressé versus on est très stressé mais on a peu de... prédisposition, c'est encore assez énigmatique.
En fait, il est très difficile de mettre en place une équation. Vous me demandez là de mettre en évidence une équation du vivant, donc qui est déjà tellement difficile à appréhender. Je vais vous donner un exemple. On a eu une petite patiente qui avait des manifestations extrêmement fortes et aiguës, et quand on a pu mettre en évidence un problème de harcèlement à l'école et qu'on a pu le traiter, eh bien cette petite patiente n'avait quasiment plus de symptômes après. Donc ça veut dire que quand même on a une influence de ce système neuropsychique.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver dans la collection La Science au Labo. C'est à podcaster sur l'appli Radio France, bien sûr. Audrey Nussbaum, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a une évaluation de l'ensemble des surfaces, comme disait notre collègue. Après, pour finir sur le reportage, le stress n'est pas la cause des allergies. Par contre, on est tous stressés et on ne développe pas tous des allergies, ça c'est sûr. Par contre, c'est un des facteurs aggravants. Donc, il faut prendre en compte, comme d'autres facteurs aggravants, comme les pollens, comme les détergents, comme les irritants, les polluants.
Sur ces facteurs, Isabella Annecy Maizano, vous souhaitiez également revenir sur cette notion qu'est l'exposome.
Oui, parce qu'on a nommé plein de facteurs qui contribuent à la réponse allergique une fois qu'on est soumis à l'allergène, qu'il y a l'exposition à l'allergène, et c'est la notion de exposome, à savoir l'ensemble des expositions auxquelles un individu est soumis depuis en fait la vie in utero et pendant toute la vie, qui fait bien, qui nous permet de bien comprendre pourquoi une manifestation allergique se produit, pourquoi elle varie d'un individu à un autre, à parité de facteurs, pourquoi c'est plus fort chez un individu que chez l'autre. On a parlé de type d'alimentation, même l'exercice physique est très bon pour la santé, donc on a des facteurs, cofacteurs, qui doivent être pris en compte et qui sont importants.
Et pour rebondir sur ça, c'est vrai que pour modifier et façonner une réponse inflammatoire allergique, il y avait les gènes, mais on voit que c'est c'est une très faible contribution aujourd'hui. Et l'exposome, c'est vraiment le grand acteur, finalement, qui vient modifier les allergies.
Alors là, j'aimerais qu'on passe au traitement. C'est quelque chose d'assez important à parler, parce qu'on est quand même assez... c'est une émission un peu préoccupante quand on voit le nombre de personnes et cette hausse de prévalence qui ne cesse d'accroître. Yann Cornillier, côté traitement, aujourd'hui, on est quand même encore en train de jongler entre antihistaminiques et corticoïdes, mais il y a aussi des avancées.
Oui, alors c'est vrai qu'en fait, par rapport à l'archive de 1947, il n'y a pas eu beaucoup d'évolutions révolutionnaires. On en est quand même beaucoup à encore aux antihistaminiques.
Nos deux invités font la grimace.
Il y a eu.
Disons qu'il y a encore beaucoup, on se repose encore beaucoup sur les antihistaminiques, les bronchodilatateurs et la désensibilisation. Après, il y a effectivement des nouveaux traitements qui sont les anticorps monoclonaux, donc des thérapies vraiment, des immunothérapies en fait, des sortes d'immunothérapies. Et donc ça, c'est vraiment la révolution parce que ça traite la cause vraiment de l'allergie au niveau des anticorps.
C'est qu'avec des antihistaminiques et des corticoïdes, on arrivait à bien contrôler la majorité des asthmes, mais ça permet simplement de contrôler la maladie en réduisant l'inflammation. Avec cette saga des anticorps monoclonaux qui est loin d'être finie, Audrey Nussbaum, on peut peut-être revenir sur le fonctionnement de ces immunothérapies anti-allergiques.
Aujourd'hui, l'inflammation allergique est beaucoup mieux connu. C'est-à-dire qu'on sait que ça implique des molécules de l'inflammation qui sont identifiées, qu'on appelle l'inflammation avec un profil de type 2, il y en a plusieurs, et impliquant des cytokines, qui sont donc ces molécules inflammatoires qui vont circuler dans l'organisme, et notamment les cytokines comme l'interleukine 4, 5, 13, 31. Et aujourd'hui, ça c'est important de les avoir en tête, parce que ces nouveaux médicaments ciblent exactement en fait ces cytokines-là. Ce sont des thérapies ciblées qui sont des biomédicaments, non pas parce que c'est bio et naturel, mais parce que ça vient de la biologie moléculaire.
En effet, on a le dupilumab ou le tezepelumab dans ces thérapies-là, Isabella Anessi Mazano.
Oui, tout à fait. Mais j'ai envie de... On a oublié une famille très importante qui est celle des immunothérapies, c'est-à-dire de faire reconnaître à l'organisme que la substance peut être combattue.
À la désensibilisation, en
oui,
effet.
Oui, une désensibilisation, c'est ça le mot qu'on utilise. Donc, on crée une tolérance. Alors maintenant, il y a une façon très facile, dans le temps, au temps de, sûrement de Monsieur Pasteur, on faisait des piqûres. Maintenant, on peut prendre des tablettes, on les met sous la langue, donc c'est beaucoup plus facile. Le problème, c'est qu'on le fait pendant 3 ans et que puis ça ne dure pas pendant toute la vie. Donc, mais c'est la majeure, beaucoup de patients sont traités quand on a un allergène bien identifié. C'est comme ça qu'on essaye de combattre son allergie.
Cette désensibilisation avec une progression, une diminution des symptômes allergiques qui durent en effet, comme vous le dites, plusieurs années. Du point de vue physiologique, quels sont les mécanismes en jeu, Audrey Nussbaum ?
On vient réinduire une tolérance, en fait. Il y a eu une rupture de tolérance par l'arrivée de l'allergie. On vient réinduire une tolérance et on vient rééquilibrer le système immunitaire en faisant diminuer les IgE et en faisant augmenter par ces protocoles d'accoutumance d'autres types d'anticorps qui sont anti-inflammatoires, qu'on appelle les IgG4, et des cellules anti-inflammatoires qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs qui arrivent au cours du temps. Au-delà de ces traitements qui sont absolument indispensables et qui permettent vraiment de guérir des allergies immédiates contre le pollen, notamment, dans l'asthme ou la rhinite allergique, je pense qu'il faut aussi revenir sur des choses de base. Et on a parlé de la modification de l'exposome, de la modification de nos modes de vie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir aussi à des choses simples qui sont, il y a trop d'hygiène. Et par exemple, pour les pathologies allergiques cutanées, on se lave trop. Il n'y a pas besoin de prendre des douches, des bains au quotidien pendant une demi-heure, une heure. Ça vient décaper beaucoup trop, par exemple, notre peau.
Ça, sur la prévention, je voudrais, on va y venir dans quelques instants, mais quand même, parce qu'on était sur les thérapeutiques et la prise en charge thérapeutique, quand même, autre aspect assez révolutionnaire, c'est qu'on va aussi vers un vaccin contre l'asthme allergique, Yann Cornillier.
Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir, c'est que sur les immunothérapies à base d'anticorps monoclonaux, c'est qu'effectivement, c'est très innovant, mais c'est encore des thérapies qui sont très difficilement accessible à tous, parce que ça coûte très très cher, et que il faut des injections par mois, donc c'est une thérapie quand même assez lourde, et donc réservée à certains cas, etc. Alors, à l'inverse de la désensibilisation, qui est beaucoup plus abordable.
Yann, vous avez raison, c'est vrai que généralement, c'est entre 10 et 20% des patients qui ont besoin d'avoir recours à ce type de biothérapie. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui en France, ces traitements, la prescription de ces traitements n'est plus restreinte à l'hôpital, et tous les allergologues, les dermatologues ou les pédiatres, les internistes peuvent aujourd'hui prescrire ces biothérapies en ville. Donc, ça devient beaucoup plus accessible.
Je reviens à cette question sur les vaccins. On a commencé avec le petit-fils de Pasteur, sur justement la piste thérapeutique des vaccins contre l'asthme allergique, Audrey Nussbaum.
Alors, oui,
on a plusieurs études qui sont plutôt optimistes, ou avec vous, Isabella Anne-Cy Maizano.
En fait, il y a deux types de vaccins. Un qui est qu'on peut appeler vraiment vaccin, parce que à partir de ce qu'on a appris pour faire le vaccin contre la Covid, on a commencé à faire un vaccin basé sur l'ARN messager pour que le corps produisent des antigènes, donc c'est des petites parties qui ensuite permettent à l'organisme de combattre l'allergène. Donc, et il y a des papiers sur ça, hein, avant de venir, j'ai vérifié, publié, donc vu par, analysé dans la communauté scientifique, considéré comme valable. Ensuite, il y a des vaccins anti-IgE, mais c'est pas vraiment des vaccins au sens classique, donc ils donnent pas une protection qui est continue dans le temps, hein, ils s'arrêtent et ils vont cibler le récepteur dont tu as parlé, Audrey, à savoir sur lequel les IgE se fixent. Donc l'idée, c'est on détruit ce récepteur et il n'y a plus de fixation des IgE, ce qui est à l'origine de la réponse allergique avec tous les médiateurs qui participent à cette réaction.
Nous aussi, la piste du développement de vaccins pour prévenir les crises ou les réactions sévères. À présent, comment améliorer le parcours de soins des patients ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture et en partenariat avec l'INSERM, nous parlons des allergies lorsque la machinerie immunitaire se dérègle. On en parle avec Isabella Anne-Cy Maizano et Audrey Nussbaum. On estime qu'un patient allergique doit faire face à une errance thérapeutique de 7 ans en moyenne, mais pendant tout ce temps, l'allergie non prise en charge correctement peut s'aggraver. Comment améliorer le parcours de soins des patients, Audrey Nussbaum ?
Alors, tout d'abord, en parler à son médecin généraliste, qui est aussi un acteur de soins important et qui peut proposer des solutions symptomatiques. Et puis se rapprocher aussi de mesures, en fait, qu'on va pouvoir, des conseils au quotidien qu'on va pouvoir donner aux parents, à l'entourage, aux familles, notamment chez les enfants.
Oui, parce que dans cette errance thérapeutique, on a aussi le fait que les allergies sont largement sous-estimées, notamment par l'entourage des patients.
Absolument. Et on sous-estime le fardeau que représente d'être allergique au quotidien quand on a de l'asthme, une rhinite ou un eczéma avec des nuits difficiles. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus cette vision de dire que c'est pas facile d'être allergique parce qu'il y a un vrai retentissement en termes de productivité, de présentéisme au travail, d'absentéisme, etc.
Isabella Anne-Cy Maizano, comment améliorer justement cette prise en charge pour les patients ?
Moi, je suis épidémiologiste, donc j'ai dit en faisant de la prévention, hein, tout d'abord. Et ça, c'est la prévention, on se protège des facteurs qui aggravent l'allergie, par exemple la pollution atmosphérique, hein, c'est bien connu, mais ça peut être aussi manger plus sain, parce que on sait que l'alimentation participe à la réponse, peut contraster la réponse inflammatoire. Et puis, je trouve que ce qui est fait en Finlande, c'est-à-dire retourner à la nature, demander aux enfants de jouer avec la terre, c'est parce que les Finlandais ont accompagné ces mesures avec des mesures de microbiome de la peau, ils ont retrouvé que ben, ces enfants avaient un microbiome qui était plus équilibré. Et puis, il est très important que les patients soient informés à ce effet. J'ai vraiment la nécessité de dire qu'en France, on avait un instrument qui s'appelle le Réseau National de Surveillance Aérobiologique qui donnait les mesures sur le nombre de pollen et de moisissures dans l'air et que malheureusement, ben, ce réseau n'existe plus et a été remplacé par un modèle, en fait, avec beaucoup moins de mesures. Le RNSA avait 80 points de mesure, avec 80 pollens qui étaient surveillés et quelques moisissures. Maintenant, on a beaucoup moins de pollens surveillés, seulement 15 points de mesure. Ça fait que, bah, par exemple, les cyprès ne sont plus surveillés, alors que l'allergie, la pollinose aux cyprès est très connue. Donc, voilà, il faut que les patients puissent disposer des mesures qui leur servent à vivre normalement, à ne pas être exposé.
Ce que vous dites sur ce retour à la nature, retour à la terre des enfants, ça me fait penser à cette enquête européenne Pasture, où on voit que les enfants qui vivent à la campagne, avec des animaux de compagnie, développent moins d'allergies. Alors, comme vous dites, plus de surveillance pour la prévention, mais aussi peut-être plus d'allergologues, Audrey Nussbaum.
Alors, effectivement, on a besoin d'avoir des spécialistes des allergies. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, depuis 2017, on a une authentique filière de diplômés en allergologie qui est née, avec un diplôme d'études spécifiques qui s'appelle le DES, au même titre que un pneumologue, un dermatologue ou un cardiologue. Avant, l'allergologie n'était pas une authentique spécialité en France. Donc nous avons de bons et jeunes allergologues qui sortent de ces cursus depuis quelques temps. Néanmoins, on en forme moins d'une cinquantaine en France tous les ans, et c'est vrai qu'il y a plus de 50 allergologues qui partent à la retraite aujourd'hui. Donc on voit que l'équilibre n'est pas encore atteint. D'où l'importance d'avoir des mesures, je dirais, de la prévention grand public qui soient accessibles et facilement applicables. On parlait tout à l'heure de l'hygiène. Je pense qu'on peut aussi parler aujourd'hui des mesures de diversification précoce qui préviennent authentiquement la survenue d'allergies alimentaires chez les enfants en commençant à habituer l'enfant à manger différents aliments dès l'âge de 4 mois, ce qui n'était pas encore fait en France jusqu'à présent.
Là, il y a une étude de l'INSERM très importante, justement, qui a montré comme les enfants dont les parents faisaient très attention à ces aliments qu'on pense comme allergisants, eh ben, avaient un risque d'avoir un enfant allergique plus tard dans la vie. Et ceux qui, par contre, avaient vécu normalement sans faire attention aux aliments, avait moins d'enfants allergiques. Et c'est vraiment une donnée très importante.
Yann Cordier, le nombre d'allergologues ne cesse donc de diminuer, alors que les cas sont en croissance constante. En fait, il faudrait mettre en place de nouvelles structures d'allergologie, notamment dans les hôpitaux.
Oui, tout à fait. Alors après, c'est plutôt au pouvoir public de répondre. Hein, mais je crois que ça ne concerne pas forcément que la filière allergologie, hein, d'ailleurs. Mais de toute façon, face à l'augmentation de la population, face à l'augmentation de tout un tas de maladies liées à l'environnement. De toute façon, il faut des spécialistes pour répondre à cette demande. Et là, on le voit avec les allergies, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres aussi, comme pour les cancers ou les autres. Donc là, de la moitié de la population allergique d'ici 10 ans, enfin, même pas.
Ouais, de 2030 en Europe, la moitié de la population allergique. Merci Yann Cornillier pour ce mot de la fin et cette conclusion. Comme chaque jour, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Mais pour prolonger l'écoute, je rappelle que le numéro 64 du Mac de l'INSERM, bientôt tous allergiques, est disponible en ligne et dans une nouvelle et magnifique formule papier. Et dès aujourd'hui et jusqu'au 18 avril, on voit le 20e congrès francophone d'allergologie à la Porte Maillot à Paris. Merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on parle de neurosciences avec la plus grande carte du cerveau jamais réalisée. C'est la chronique avec science.
Peu Peut-on reproduire les structures cérébrales? Une petite souris vient de passer à la postérité puisque pas moins de 150 chercheurs américains réunis au sein du Microns Project sont parvenus à reproduire avec précision une partie du cerveau de ce rongeur, 1 mm cube pour être exact. Alors ça peut sembler très peu, mais c'est déjà un exploit formidable. C'est la première fois qu'on est capable de produire une carte en 3 dimensions d'une partie d'un cerveau de mammifère avec une telle précision. Les auteurs présentent leurs résultats dans une série d'articles publiés dans la revue Nature. Ce travail, c'est la continuité de l'histoire des neurosciences qui, dès leur début, s'intéresse à l'exploration de l'anatomie du cerveau. Depuis quelques dizaines d'années déjà, les scientifiques rêvent de mieux connaître les connexions cérébrales, c'est-à-dire comment les neurones sont connectés les uns aux autres pour pouvoir prédire les fonctions du cerveau. Et en 2023 a été publiée la première cartographie complète du cerveau de larves de mouches drosophiles. C'était déjà une prouesse, mais ici, on parle d'un tissu cérébral de souris, un animal plus gros et au cerveau bien plus complexe encore. Luc Estebanez est chargé de recherche CNRS, il travaille à l'Institut de neurosciences de Paris-Saclay.
Ça devient possible aujourd'hui, comme on a pu commencer à séquencer à un moment le génome de l'humain, parce qu'il y a des technologies qui émergent. Et ces technologies, d'abord, c'est simplement faire des images à très très haute résolution dans un volume, et pas juste à plat. Et puis, plus à la mode encore, il y a l'intelligence artificielle, tout simplement. Ce projet, c'est un projet qui mêle des ambitions en neurosciences très fortes, mais c'est surtout un projet d'ingénierie, comme les Américains savent bien le faire, puisque c'est un consortium entre plusieurs universités américaines. Et que ce soit pour la reconstitution anatomique ou pour l'enregistrement en microscopie biphoton, eh bien, ce sont à chaque fois des défis d'ingénierie qui sont résolus pleinement, de telle sorte à pouvoir faire cette anatomie, construire cette anatomie. Et, il y a 100 millions d'euros, visiblement, sur ce projet. Voilà, avec ces 100 millions d'euros, on a pu à la fois concevoir la nouvelle génération de microscopes de photons, concevoir la nouvelle génération de microscopie électronique volumétrique et combiner tout ça en un projet de recherche en neurosciences vraiment, vraiment important.
Alors concrètement, comment s'y sont-ils pris? Ils ont commencé par mesurer individuellement l'activité de 76 000 neurones de la partie du cortex visuel qu'ils allaient reproduire, le tout pendant que l'animal regardait des vidéos, ce qui permettait de stimuler son cortex. La suite est moins joyeuse, hein, puisqu'ils ont sacrifié la souris, extrait son cerveau et ont mis des jours et des jours à découper cette partie bien précise du cortex visuel en fines tranches de quelques nanomètres. Et après, grâce à de la microscopie de pointe, ils ont pris des photos couche par couche pour reproduire numériquement et en 3 dimensions ce très dense réseau cérébral. Mais même dans 1 mm cube, on trouve des centaines de milliers de cellules, des centaines de millions de points de connexion, ce qu'on appelle des synapses. Et avec ça, il faut ensuite identifier chaque neurone, parvenir à suivre ses prolongements sur plusieurs tranches et déterminer précisément ses connexions synaptiques. Une telle complexité serait impossible à traiter sans faire usage de l'intelligence artificielle.
C'est vraiment un triomphe de l'ingénierie, ce travail, plus qu'un triomphe de nouvelles idées, puisque les idées sont très simples, elles sont presque naïves. L'idée qu'il y a derrière, c'est que simplement, en décrivant la structure du cerveau, on va comprendre sa fonction. Et c'est là où on peut peut-être poser des questions par rapport à ce projet, parce que, en fait, les résultats sur la compréhension du fonctionnement du cerveau qui sont présentés dans tous ces articles, qui sont liés à ce consortium, eh bien, finalement, ils ne sont pas non plus révolutionnaires. Les résultats observés, c'est des choses du genre plusieurs neurones qui ont la même représentation des scènes sensorielles qui sont présentées, des scènes visuelles qui sont présentées, vont avoir souvent des connexions en commun, ce genre de choses. Et ce sont des choses qui sont assez connues dans les neurosciences. Alors bien entendu, c'est le début de l'exploitation de ce jeu de données, mais finalement, par rapport à la cathédrale qui a été construite pour réaliser ce défi, eh bien, la science qui en est tirée est peut-être un petit peu un cran en dessous.
Par ailleurs, ce projet nous propose une représentation relativement fixe des connexions neuronales. Quand on sait que le cerveau est capable de plasticité, donc de se réorganiser pour faire face aux différentes situations, on comprend très vite qu'on est encore très loin de pouvoir représenter toute sa complexité. Néanmoins, on parle là de la création d'une base de données incroyable qui est absolument essentielle pour répondre à la question que se posent tous les neurobiologistes, c'est-à-dire le lien entre les structures du cerveau et leurs fonctions. Après ce premier succès, on peut s'attendre à d'autres projets du même ordre. On assiste probablement à la naissance d'un tout nouvel outil extrêmement prometteur.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Céline Lausanne, Louanger, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.